the federal government to amend the Physical Activity and Sport Act to support reconciliation and build capacity in the Canadian sports system for the inclusion of Aboriginal peoples. Call to Action 90. We call upon the federal government to ensure that national sports policies, programs, and initiatives are inclusive of Aboriginal peoples. Call to Action 91. We call upon the federal government to ensure that national sports policies, programs, and initiatives are inclusive of
tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKUT à votre émission du vendredi soir, votre émission préférée d'art et de culture, Café. C'est Alex qui vous parle en direct des studios de CKUT avec Esther. Bonsoir Esther.
Bonsoir. Chouette de vous revoir, Alex et Lynn.
Absolument. Allô, et allô. Bonsoir Lynn pour une première fois en studio. Aujourd'hui, hein, on est vendredi le 30 septembre, premier anniversaire de la journée de la vérité et de la réconciliation. Comme on vient d'entendre avec l'émission Of the Hour qui nommait, en fait, qui lisait les call to action que plusieurs groupes autochtones ont nommés au gouvernement. Merci à Of the Hour pour ce moment nécessaire de radio. Bon, si quelques personnes peuvent trouver ça un peu long parfois, c'est nécessaire de réentendre ces voix-là, hein, de... Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez autour de la table. On fait des oui.
Oui, c'est sûr, là. C'est nécessaire.
Mm-hmm. Et sinon, gros menu en ce vendredi soir, hein, on va, entre autres, moi et Julie, on couvre le Festival Pop Montréal. Donc, on va revenir sur la soirée d'ouverture qui a lieu mercredi passé à l'Entrepôt 77. Julie aussi va vous parler de Status, Non-Status, Maya Cousineau-Molène et de Tania Tagac en cette journée de réconciliation, ainsi que de Tortoise. Pardon pour mon super accent anglais. Sinon, Esther, est-ce que tu veux nous dire de quoi tu vas nous parler?
Oui, je vais vous parler du Festival du Nouveau Cinéma qui s'annonce et qui sera, qui débute le 5 octobre. Donc, je vais souligner quelques films à surveiller. Ainsi, je vais vous parler et on va jouer une pièce sonore du dernier album de Oren Ambarchi, un musicien australien qui est fort productif et fort talentueux.
Mm-hmm. Et Lynn, qu'est-ce que tu vas nous parler en cette premier studio?
Oui, mais ça fait un an que je fais les capsules. C'est la première fois que je viens actually au studio, fait que c'est bien excitant. Je vais vous raconter le spectacle de Winnie Ho auquel j'ai assisté le 23 septembre dernier. C'est une performance en coproduction avec Densité. Donc, je vais vous faire une courte critique là-dessus.
Nice! Et donc, avant d'aller, de plonger dans tous ces sujets plus intéressants les uns que les autres, on va aller en musique avec une pièce d'une artiste que j'ai découvert mercredi dernier, justement, à la soirée d'ouverture de Pop Montréal. Donc, l'artiste s'appelle Sianna. C'est une artiste multidisciplinaire qui est née à Montréal. Elle est d'origine haïtienne. Du DJ dans les raves à la production musicale de son EP électronique 19 Years of Rage, Sianna joue avec les sons pour percevoir les émotions et bouger son corps. Si c'est dans un rave ou dans vos écouteurs, vous serez témoin de son esprit. Pour vrai, c'était quand même assez tôt. Il y avait peu de monde sur le dance floor, mais c'était la performance était absolument électrisante. C'était, ouais, c'était, il y avait comme trois personnes qui dansaient, mais chouette. C'était comme, c'était vraiment quelque chose. Donc, c'est vraiment une artiste à découvrir. Alors, on vous laisse pendant cette courte pause musicale. Bonne écoute, tout le monde.
Donc, il est 6h09, on est sur Café, sur CKUT. C'est Lynn qui vous parle. Donc, le 23 septembre dernier, je suis allée à un spectacle, une performance de Winnie Ho et en coproduction avec Densité. La conception sonore était de Moore Clark. Et j'aimerais ça vous en parler. Dans le fond, Winnie Ho, qui est aussi appelée Super Hova, c'est une artiste, danseuse et performeuse. Elle est née à Hong Kong et elle a immigré au Canada à l'âge de 8 ans. et elle vit actuellement à Montréal. Et en fait, la performance à laquelle j'ai assisté vendredi explorait la relation distante et brouillée de Winnie avec Hong Kong, son lieu de naissance, en naviguant à travers les complexités de sa diaspora et de son identité queer. Elle évoluait avec un instrument de cuisson chinoise traditionnel, le wok, et s'immergeait dans le wok chi, l'énergie du wok, qui donne à la cuisine cantonaise son goût singulier. En examinant de manière sensorielle les méthodes et les matières utilisées dans la cuisine cantonaise, elle cherchait à écouter, à se reconnecter avec ses ancêtres et ses origines. Maintenant, une petite description sensorielle de la performance. La conception sonore et l'éclairage ont vraiment joué un énorme rôle dans la performance. J'ai trouvé davantage que lors d'autres performances à laquelle j'ai assisté. C'était minimaliste, mais comme le silence et l'obscurité dominaient, chaque élément sonore et lumineux était marquant. Par exemple, au tout début de la performance, Winnie essore des grandes feuilles de papier et les gouttes d'eau qui tombent dans les woks en résonnant sont les seuls bruits dans la salle, ce qui a eu un effet plutôt méditatif. Je sentais que tout le monde s'apaisait au bout de seulement quelques minutes et était prêt à recevoir le reste de la performance. À d'autres moments, Winnie chantait des chansons en cantonais et un enregistrement sonore lui répondait avec la version enregistrée de la chanson. Et c'était très, très fluide. C'était vraiment très naturel. Et il y a aussi eu quelques enregistrements de nature à différents moments. Ça nous enveloppait, il y avait des bruits d'oiseaux. Et c'était vraiment très agréable. Et à part ça, la performance était vraiment remplie de surprises. Winnie jouait avec la candeur d'une enfant, avec les différentes tailles de wok, en se roulant dedans. Il y en avait vraiment des énormes. Elle les mettait sur son dos comme pour imiter la carapace d'une tortue. Elle a aussi attaché le plus gros wok, qui avait l'air plutôt pesant, à une corde, puis elle le traînait autour de la scène. Et à la fin de la performance, Winnie Ho s'est mise à tournoyer sur elle-même en tenant la corde qui était attachée au wok à bout de bras. Et le wok, avec la vitesse, s'est mis à décoller progressivement du sol. Puis Winnie Ho a continué à tournoyer sur elle-même pendant plusieurs minutes en défiant le tournis qui a forcément dû arriver à un moment donné. C'était assez impressionnant. On se demandait quand est-ce qu'elle allait s'arrêter, si elle allait tomber, mais elle est restée debout. Et après ça, elle a continué comme si de rien n'était. Personnellement, j'ai ressenti que l'accent de la performance était beaucoup dirigé vers le corps, la force physique, la peau nue. En fait, Winnie était torse nu et elle ne portait que de légers shorts, donc on pouvait aisément apercevoir ses muscles saillants pendant la performance. C'était très cru, c'était très... Il n'y avait pas de grands costumes, pas d'éléments superflus, très naturel. Et il y avait quelques jeux de regard parfois, mais sinon, elle était vraiment dans son monde. Et j'ai comme ressenti que le spectacle était parfois hermétique, voire inaccessible, selon ma perception, évidemment. Ça a sûrement touché d'autres personnes. Mais on avait vraiment l'impression d'assister à une recherche très personnelle qui avait lieu dans sa tête, puis qu'elle nous partageait. Bref, le rythme du spectacle était très varié, avec une alternance de mouvements lents et puis après très rapides. Winnie Ho jouait avec les matières du wok, de la peau nue, du sol, de l'eau, et presque tous nos sens étaient touchés, car nous pouvions également sentir les arômes d'un riz cantonais qui cuisait dans la salle d'à côté pour rassasier les spectateurs à la fin du spectacle. Donc, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment le fun à assister. Puis, oui, restez à l'affût parce qu'au mois d'octobre, je vais couvrir le festival Phénoména, qui est produit par les Filles Électriques. Donc, ça va être super le fun. Et c'est ça, je vous en dis pas plus.
Wow! Tellement une belle critique. Très littéraire de ce spectacle. On dirait qu'on y était presque. Merci, Lynn.
Avec plaisir.
Avant de poursuivre avec nos sujets de la soirée, Esther va nous présenter la prochaine pièce musicale qu'on va écouter.
Oui, c'est un artiste australien que j'aime beaucoup. Un instant. Que je vous trouve le nom, puisque je ne veux pas...
Oren Ambarchi?
Oui, c'est ça, puisque je ne veux pas massacrer le nom. Et c'est son dernier album qui est sorti sur Drag City, une étiquette de Chicago. Et c'est un album assez surprenant. On va écouter un extrait, puis on revient parler musique et cinéma. Et vous êtes sur CKUT. Il est 18h14.
Bonne écoute tout le monde. de retour à votre émission Café, toujours sur les ondes de CKUT, les 18h24. Nous sommes en studio avec Julie, Esther et Lynn et on vient d'écouter la pièce d'Oren Ambarchi, la pièce 2 de son plus récent album que Esther nous a parlé un peu plus tôt. Et maintenant, Esther va nous parler de la programmation à venir du Festival de Nouveau Cinéma.
Oui, pour revenir à cet album que nous venons d'entendre de Oren Ambarchi, c'est un prolifique musicien australien qui est toujours en tournée, qui est basé à Berlin. Son dernier album, Shibang, a sorti sur Drag City en septembre dernier. Donc, ça fait quelques semaines et c'est, comme vous pouvez entendre, c'est un petit bijou. Il s'est entouré de super musiciens comme Jim O'Rourke, qui n'a pas besoin de présentation, qui est producteur, musicien, basé au Japon, d'origine américaine. Il s'est entouré également de Julia Reedy et Chris Abraham, cofondeurs du groupe The Neck. The Neck, c'est un groupe de nouvelles, on peut appeler ça du nouveau jazz expérimental, nouvelle tendance de jazz. Le clarinettiste de basse, clarinettiste Sam Domcomber, l'ingénieur Joe Telia, un percussionniste, drummer B.G. Cole et d'autres musiciens. Donc, on nous parle d'un Art Forum cette semaine que Oren Ambarchi bien a travaillé avec ces musiciens-là à distance, en leur donnant des structures assez souples, assez ouvertes. Et c'est un travail de collaboration entre musiciens qui ont un style, une esthétique vraiment compatible. Quand on pense à The Neck, ben, on reconnaît un peu cette touche. C'est une touche de, comme vous avez pu entendre, vraiment punchy, beaucoup, beaucoup de percussions du début à la fin. Et il y a beaucoup de travail d'ingénierie sonore. C'est vraiment surprenant puisque, bon, Oren travaille avec Touch, le label d'Angleterre depuis très longtemps, et avec Drag City de Chicago, je connaissais moins son implication et on peut sentir une sorte de jazz fusion, mettant sans tomber dans le cliché de jazz fusion, mais il y a une production vraiment propre, sans trop pousser, que j'étais vraiment, vraiment surprise. Une influence de Jim O'Rourke, évidemment. Donc, c'est vraiment une rencontre entre le digital, le numérique et l'analogique. On peut sentir vraiment ces deux touches qui se croisent et s'entrelacent sur cet album. Ouais, c'est un petit bijou, quoi. Donc, voilà, sur Shibang, sur le label Drag City, vous pouvez trouver en ligne des liens et tout. Et parlons cinéma maintenant. Oui, le Festival du Nouveau Cinéma arrive à grands pas. La 51e édition qui débute le 5 octobre et cela jusqu'au 16 octobre. Par où commencer? Ben, il y a toujours les compétitions internationales et nationales, les sections incontournables. Soulignons bien qu'il y a des très bonnes apports de femmes. On parlait tantôt de Lynn nous parlait d'un spectacle de danse tout à l'heure, que l'artiste se ressourçait par rapport à ses racines de Hong Kong. Bien, il y a aussi un clin d'œil à ça avec le film de Myriam Charles, « Sept maisons ». C'est un long métrage, cette fois-ci, qu'elle nous livre, et elle parle de ses racines. Elle parle de la mémoire d'une cousine tragiquement disparue à 14 ans. Donc, c'est un film qui a l'air vraiment très touchant. Myriam Charles, bien, c'est une jeune réalisatrice, bien, je dirais, déjà émergente, mi-carrière, qui s'affirme vraiment dans le cinéma canadien, québécois, qui a des films admirables, autant formels que de contenu, qui parle de sa diaspora, qui a toujours une couche poétique et et qui parle en profondeur des choses vraiment toujours bien ficelées. Également, bien, il y a une autre femme que j'ai du respect pour elle, Sarah Polley, qui nous présente un film qui s'appelle Woman Talking. Donc, depuis quelques années, bien, Sarah Polley, elle est très active sur, comme activiste et tout. Elle prend la réalisation maintenant. On la connaissait plus comme actrice auparavant. Maintenant, elle est derrière la caméra. Et donc, entre rage et espoir des femmes, Mémonite abusée joue leur destin, une joute philosophique menée par des actrices hors pair. Donc, c'est la prémisse du film. Ce film tout récent, 2022, Women Talking. Également, il y a une adaptation du roman de Don DeLillo, White Noise, un film américain de Noah Baumbach. Désolée pour la prononciation. Il y a un des derniers films de Ho Sang-soo qui s'appelle The Novelist Film. Donc, Ho Sang-soo, bien, c'est son 27e film. Et c'est pas le film qui a joué au Festival de Venise. Je suis un peu surprise, mais c'est un des derniers films qui est en train de clôturer sa tournée. Ho Sang-soo produit énormément de films ces dernières années. Et là, bien sûrement, c'est un film qui nous parle mais encore pas de façon péjorative, mais qui nous parle c'est quoi être artiste, c'est le côté aussi humain de faire de l'art. Et il y a toujours des questions sur l'amitié et des réflexions mélancoliques également. The Novelist Film. L'an passé, il nous avait offert deux beaux films, et c'était assez sensationnel. Assez rare qu'un réalisateur a deux films, et lui avait deux films l'an passé ici, je ne me trompe pas, au FNC. OK, disons, évidemment, il ne faut pas manquer la section Temps zéro. C'est la section qui a plus de délire, je dirais. Quentin Dupieux revient en force avec Fumer fait tousser. Donc, c'est un réalisateur français qui est assez délirant et qui nous en montre toujours plein. Là. C'est toujours très absurde et un côté grinçant. Donc là, c'est Tabac Force et Rabat Vu contre Poilord et Monstre Caoutchouteux. OK, le plus jouissif des Dupieux. Point d'interrogation possible. On verra. Ouais, très hâte de voir ça. Il y a aussi des sections, on nous remonte des films comme The Driver de Walter Hill. Donc ça, c'est dans les... une petite section rétro. C'est un film incroyable, ça, ce film The Driver de Walter Hill, 1978, qui a inspiré le Drive de 2010 de Nicolas Winding Refn.
Avec Ryan Gosling, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
C'est lui que je connais, moi.
Mon préféré.
Ton préféré, c'est le vieux ou le récent?
Non, mais je pense que c'est Alex, en fait, qui a dit ça, mais j'ai pas vu le vieux, l'original.
A masterpiece, c'est... C'est incroyable. Ouais, c'est les années 70, quoi. Il y a un côté grinçant, sociopolitique, et c'est haute voltige. C'est très, très bon comme film. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choix au Festival du Nouveau Cinéma. On a pour tous les goûts, même section spéciale, ouais, les rétros, du VR, section plus histoire du cinéma. Donc, et joue la maman et la putain, par exemple. Donc, ça revoir sous la, ou à voir si vous ne l'avez pas vu.
Wow.
Donc, voilà, les semaines à venir, bien, je vais aller voir quelques films et je vous en parlerai. Bon cinéma.
On a jusqu'à quand pour aller au Festival du Nouveau Cinéma?
C'est jusqu'au 16 octobre. Du 5 au 16 octobre.
Cool.
Ouais, il y a beaucoup de festivals en octobre. Hein. Comme je disais, il y a Acousma, il y a le Jazz Off Festival, il y a le Festival à Eastern Block aussi. Donc
Phénoménal aussi.
Il y a Phénoménal. Ouais, ça bouge beaucoup, Montréal. Hein.
Ouais, c'est un peu anxiogène parfois.
Voilà, c'est ça.
Faut choisir mais à quoi on assiste avec précaution.
Voilà, voilà, tout à fait.
Merci Esther. Merci. Pour cette couverture du FNC. Julie, mm-hmm. on a dit un peu plus tôt en introduction qu'aujourd'hui c'est le 30 septembre, la journée de réconciliation et de réparation des peuples autochtones. Tu veux plonger dans ton sujet?
Mm-hmm. Donc, la journée donc, qui a été établie comme journée fériée depuis l'année passée donc, par le gouvernement fédéral, disons pour se rappeler, faire honneur aux enfants des pensionnats autochtones, des descendants des enfants des pensionnats autochtones, donc notamment suite à l'événement à Kamloops en Colombie-Britannique. Donc, si plusieurs critiquent peut-être la notion de réconciliation, puisque avant de se réconcilier, il faut d'abord aussi exposer la vérité, prendre acte, puisqu'il n'est pas toujours fait, donc, ou très peu, par les gouvernements, tant fédéraux que provinciaux. Je voulais vous parler donc d'une autrice, une poétesse Innu, qui a une façon d'exprimer donc cette colère qui est porteuse, une colère créatrice, donc à travers ses poèmes. Donc, c'est une poétesse Innu, originaire des Kwanichit, mais elle a plutôt grandi à Québec avec des parents québécois. Donc, elle a été comme adoptée, mais tout en gardant des liens avec sa famille à Kwanichit, donc sur la côte nord. Engagée dans son milieu, elle est aussi membre, elle a été membre fondatrice donc, de l'Association étudiante autochtone de l'Université de Laval. Elle a travaillé pour l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et a aussi co-présidé le réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal. Donc, Maya Cousineau-Molène qui a écrit des recueils de poèmes Bréviaire du matricule 082 en 2019 et Enfant du lichen en 2022, donc aux éditions Anne Norac. Donc, une parole super puissante, remplie d'une juste colère. Puis, je vais vous lire quelques mots de la préface pour, je trouve, qui évoquait vraiment, en fait, sa présence. Donc, j'ai eu la chance de la recevoir cette semaine au Cégep. Puis, elle a comme une présence qui inspire puis qui attire vraiment l'intention posée, mais à la fois forte. Puis, je trouvais que les mots de la préface capturait bien, je trouve, sa présence. Dès que je reçois ses accents, ses coups de souffle, je la reconnais. Je me dis ce sont bien ses forces, la force de Maya, la force de la poète. La force de la poète Innu, la force Innu. Toutes ces forces tressées, combinées pour produire cette musique féroce. Douce, féroce. Maya ne demande rien, n'entend rien. Elle protège les blessés, les morts. Elle est l'ardente gardienne d'une archive menacée. Elle célèbre l'irrémédiable, génie engagée qu'elle est. Engagée et armée de cadences et de protestations lyriques. Est-elle poète parce qu'engagée? Ou engagée parce qu'être poète, c'est d'abord être engagée pour la défense de ce monde délicat et surpuissant, la poésie. Maya plurielle, parcourue de luttes et d'histoires, messagère infatigable des grandes colères. Il y a des joies dans la colère. Maya est une magnifique impardonnante. Il aura fallu un sacrifice de trop pour nous remettre en pleine figure l'image rampante de ce mot. Racisme, oui, racisme, crie Maya. Elle incarne une colère immémoriable, si naturelle, si sensuelle, comme venue d'une généalogie mythologique. Donc, cette semaine donc, qui est marquée par la journée Vérité et Réconciliation du 30 septembre, mais aussi c'était l'anniversaire donc, de la mort de Josh Issaquan à l'hôpital de Joliette, donc sur les insultes racistes du personnel soignant. Donc, un autre événement à se rappeler. Puis donc, je voulais profiter du fait de lire un peu des extraits de Maya Cousineau-Molène pour évoquer un poème donc, par lesquels elle discute avec Joyce. Donc, par ailleurs, la Nation Atikamekw a déposé une poursuite envers le CIUS de Joliette, puisque le gouvernement n'a, depuis 2 ans, pas vraiment agi pour la sécurisation culturelle pour les Autochtones dans les services de santé au Québec. Mais donc, allons dans la poésie. Maya Cousineau-Molène. On nous croyait plus morte que vive, plus effacée que jamais. Nos teints cadavériques, oripeaux des mémoires, notre peau teintée d'or, nos yeux de nuit infinie. Nos mains gracieuses et ciselées, notre chevelure tant de fois colonisée, nos cœurs porteurs de vie, nos épaules rondes et si douces, cette peau tant de fois caressée contre son gré. Nos agresseurs dansaient sur nos tombes afin de nous profaner encore. C'était compté sans nos guerriers, artistes pourfendeurs, clairvoyants, qui de leurs pinceaux, de leurs talents, nous ramenaient une à une à la vie. Sur la route de poussière, tu reviens vers les tiens, toi-même poussière du Nutchimit, retour aux premières sources. Les larmes qui ont ruisselé sont devenues rivières, devant le fleuve, dans les rues de Montréal. Ton sacrifice sera tout sauf vain. Il a ébranlé ces sociétés endormies. Enfin, nos cris sont entendus, notre silence assourdissant. Sans te connaître, je suis proche. On raconte ton histoire de femme, ton histoire parmi les rires de tes enfants. Tu aimais le territoire, tu le parcourais heureuse. Maintenant, tu marches encore, ton fantôme est déjà une légende. Iyame, Dame Joyce Jacquouin. Donc, c'est du recueil « Enfants du week-end » paru aux éditions Anénorak de la poétesse Inoue, Maya Cousineau-Molène. Donc, il faisait plusieurs événements aussi cette semaine, donc dans le cadre de la journée, dans la semaine, en fait, souvent des premiers peuples. Donc, il y a eu plusieurs événements. Donc, je vous invite à la suivre. Puis, je pense qu'elle a un livre de contes de Noël qui va sortir aussi, donc peut-être dans un autre registre. Mais donc, malgré la colère, donc vraiment des poèmes qui sont très, très beaux. Peut-être pour continuer un peu à l'honneur d'artistes autochtones, on va continuer avec la bande-annonce donc, d'un film qui est paru, en fait, qui est encore en tournée de festival, donc qui jouait au Festival international de films de Toronto. Donc, il était disponible en ligne, mais je pense que maintenant, c'est terminé. Donc, il faudra attendre qu'on l'ait à Montréal. Donc, un film autant réalisé, qui porte aussi donc, sur l'artiste inuit Tania Tagaq. Donc, Tania Tagaq, une chanteuse de gorge, musicienne expérimentale, peintre, romancière, vraiment pleine de talent. Puis, donc, la bande-annonce, j'ai envie de la présenter puisqu'elle est très sonore. Donc, c'est une musicienne aussi. Puis, très puissante. Donc, en regardant la bande-annonce, je suis tout de suite allée voir où est-ce qu'on fait aller regarder son documentaire qui, comme ses livres, je trouve, nous amène dans un monde un peu surréel. Donc, en utilisant donc, le conte, la façon dont on raconte une histoire qui mélange, donc on a de la misère à différencier si on veut la fiction de la réalité. Donc, la bande-annonce du film « Ever Deadly » de Tania Tagaq.
To see kids free, hey?
Ice prevents decay. It can slow your burden.
Now I haven't talked to you about the relocation much.
We went by ship. It took us a month because it was so much ice.
The freeze traps life and stops time. The thaw releases it. Sound can heal. Sound can kill. Sound can be a spear or a needle. I sing for you. I can recognize darkness because he is my brother.
I want answers. I want justice. I want an end to this.
It's not some mysterious force. It's a deliberate act of violence against us.
Why would you care less if it was me than if it was you?
I can shut off my heart, but that leads to evil. Forgive my dark heart. Shelter me from myself. Love me. There is still a child inside. Worship me. I am boundless. I survive still. Start again.
On écoutait la bande-annonce du film Ever Deadly de Tania Tagac sur les ondes de CKUT 93 FM à l'émission Café. Il est 18h45. Pour continuer sur Tania Tagac, donc musicienne expérimentale, peintre, romancière, elle a écrit notamment Crofondu, son premier roman, excellent roman, mais aussi musicienne. Donc elle vient mélanger les chants de gorge à une musique plutôt expérimentale de différents genres. Donc le New Yorker qui décrit sa voix comme des soubresauts venus des profondeurs de la gorge, des hurlements tout en vibration et des cris saccadés à glacer le sang. C'est ce qu'on pouvait aussi comprendre à travers la bande-annonce. Donc qui vient mobiliser, si on veut, le son, la voix, autant comme une arme que quelque chose d'une beauté. Donc, très hâte de voir ce film Ever Deadly. Sinon, pour continuer avec Pop Montréal, donc des artistes autochtones, il y en a quelques-uns. Ce soir, donc, Status Non-Status, autrefois connu sous le nom de Whoopzo. Donc, un band très DIY de rock alternatif, mélangeant du sludge, du grunge et du folk, à des paroles évoquant différentes réalités des premiers peuples au soi-disant Canada. Donc, notamment sur les conséquences dévastatrices du colonialisme et des politiques non génocidaires du gouvernement canadien. C'est le band de Adam Sturgeon, donc un travailleur du milieu communautaire Anishinaabe, entre autres. Donc, sur tous les albums, il y a des, évidemment d'autres personnes qui collaborent. Leur premier album, Warrior Dawn, qui a gagné le prix Polaris en 2019. Puis donc leur dernier album, Shirley Travel, qui est paru cette semaine, donc qui célèbre quant à lui un peu tous ses petits actes de résilience et de guérison. Puis donc Status Non-Status, qui est le nouveau nom donc, de Whoopzo. Le changement de nom donc, qui a été fait en 2021 pour évoquer finalement ben, justement l'enjeu du statut indien. Qui émane donc la loi sur les Indiens de 1876, donc pour lequel qui vient administrer donc cette catégorie administrative artificielle finalement qui vient octroyer un statut à certaines personnes autochtones, donc au sens de la loi, donc du nombre estimé de en 2011 par exemple du nombre estimé de 1,4 million d'autochtones. Seulement 630 000 avaient été en fait des Indiens, Indiennes inscrites au sens de la loi. Donc, ce changement-là évoque un peu cette dynamique-là. Puis notamment, donc, le Adam Sturgeon qui n'a pas de statut indien puisque son grand-père avait perdu son statut après avoir joint l'armée canadienne. Donc, on pouvait perdre son statut en ayant un diplôme universitaire ou donc jusqu'en 1985, si une femme autochtone qui mariait un nom d'autochtone non inscrit, elle perdait son statut et donc sa possibilité d'habiter sur une réserve, d'avoir accès à la propriété et évidemment donc de donner son statut à ses descendances. Donc on va écouter un morceau de leur dernier album de Status Non-Status, le morceau Has It Been So Long de l'album Shirley Travel, donc paru cette semaine. Bonne écoute.
CITL, Montreal's fifth annual art book fair and festival celebrating art and the book, bringing together the best talents from across North America and beyond. More than 50 publishers and artists will be on hand for the fair on October 1st and 2nd from 11 to 6. Free admission at the SAT 1201 Saint-Laurent. Check out the full program at volumemtl.art, featuring invited guests from the Detroit Art Book Fair, C Magazine, Le Sci, Wendy's Subway, Art Metropole, Peripheral Review, and much more. And don't miss the closing event, the launch of Flint Magazine with performances at Le Système on Sunday, October 2nd. That's Volume 5 MTL, volumemtl.art, a CKUT co-presentation.
Toujours sur les ondes de CKUT à votre émission Café. Il est 18h52 et c'est Alex qui vous parle. Pour terminer cette émission, moi je vais continuer avec la couverture du Festival Pop Montréal. Et je vais revenir sur leur soirée d'ouverture qui a eu lieu mercredi dernier à l'Entrepôt 77. Et particulièrement, je vais revenir sur la prestation du groupe Simandé, qui a été absolument époustouflante. J'étais avec Julie et on a eu la chance de les voir. C'est pas tous les jours qu'on peut voir des légendes comme ça, n'est-ce pas, Julie?
Mm-hmm. Surtout, alors, c'était leur première parution au Canada, donc c'est bien oublié.
L'atmosphère était absolument à son comble. Les gens étaient fous.
Ils viennent d'où pour avoir
Oui, je m'en vais là.
Parce que je connais pas.
Oui, alors donc merci Esther. Donc qui sont-ils, hein? Simandé, c'est un groupe qui s'est formé en 1971 à Londres autour de 9 musiciens et chanteurs d'origine jamaïcaine et guyanaise. Donc il y a Desmond Atwell, Pablo Gonzalez, Steve Scipio, Derek Gibbs, Sam Kelly, Mike Rose, Joey D, Peter Ciriro et Patrick Patterson. Ils vont sortir 3 albums au début des années 70 et vont connaître un succès immédiat aux États-Unis. Mais les préjugés raciaux du Royaume-Uni vont les empêcher de connaître un succès similaire dans leur propre pays. En 1975, le groupe va se séparer, mais, et c'est une des choses qui est particulière avec ce groupe-là, c'est que leur musique va continuer de vivre grâce aux nombreux samples qui vont être utilisés par de nombreux artistes hip-hop aux États-Unis dans les années 90. On pense à Masta Ace ou encore MC Solar qui vont connaître des grands succès avec en samplant la chanson The Message et d'autres chansons du groupe Simandé. Comme l'écrit si bien Philippe Renaud dans Le Devoir hier, si la musique de Simandé a fait autant vibrer la corde créative de nombreux DJ, compositeurs de musique, de clubs et rappeurs, c'est certainement parce que la musique du groupe ne ressemblait à aucune autre. Reggae sans le poids des basses fréquences, funk harmonique, sans le tranchant des percussions, soul dans les mélodies et des progressions harmoniques. Donc, musique singulière, mais qui a aussi une dimension spirituelle. Et là, je vais lire une citation du guitariste Patrick Watterson pour décrire un peu leur rapport à la spiritualité et à la musique. C'est parce que pour nous, la musique est une expérience spirituelle. La dimension rasta de notre démarche est très importante dans notre son et elle dit quelque chose de l'unité qui régnait dans l'orchestre et de notre compréhension des identités de la communauté noire à laquelle on appartient. Cela fait partie de nos rythmes, de nos percussions. C'était inévitable que la dimension spirituelle surgisse dans notre création. Et c'est donc plusieurs années plus tard, en 2006, que le groupe veut se réunir pour la première fois après plusieurs années pour un concert en Angleterre. Et en 2012, le groupe se reforme et va recommencer à jouer. En 2015, ils enregistrent un nouveau album qui s'appelle A Simple Act of Fate et vont participer en 2016 à une tournée mondiale. Sauf au Canada. Donc, aujourd'hui, Simandé est considérée comme une icône aussi bien dans le monde de la soul, du funk et du jazz que celui de la world music et de la variété. Et comme à chaque fois que je vous présente un truc qui s'est déjà passé, je me sens toujours un peu mal, mais cette fois-ci, pas tout à fait, parce que leur histoire a été portée au grand écran dans le documentaire « Getting It Back, The Story of Simande ». Qui va sortir en fait en 2022. Et voilà, c'est un documentaire à voir qui a été présenté aussi à Pop Montréal mercredi, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir de billets parce que c'était sold out. Et pour terminer l'émission, on va aller écouter une pièce de Simande, une pièce que vous allez peut-être reconnaître pour son sample que The Fugees a repris avec la pièce The Score. Alors, bon vendredi tout le monde, bon week-end et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bye.
CKUT. Soy su locutora, Matilde.
José.
Albert.
Y hoy nos acompañan otros miembros del Club de SLASA para preparar la entrevista con el profesor Juve Martín. Nos vemos brevemente después de la pausa.
De mí.
eso a mí un ser martirizado, porque estaba locamente enamorado. Mujer, yo no merezco esa bajeza.